Bonjour à vous, frères et sœurs. C'est une merveilleuse époque de l'année, la fête des tabernacles. Un temps où on célèbre, où on se réjouit devant Dieu concernant le plan que Dieu a pour nous, notre destinée merveilleuse que nous partageons en tant que peuple de Dieu. Allez à Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît. Et nous allons lire à partir du verset 39. Ce sont les instructions de Dieu concernant la fête que nous célébrons. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est la fête de Dieu. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une perspective un peu plus grande de la fête des tabernacles en rapport directement avec Jésus-Christ, notre roi. Notre grand roi des rois qui vient bientôt. Allons à Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 12, et nous allons aller dans le contexte où la Pâque approche, le sacrifice de Jésus-Christ, verset 1. 6 jours avant la Pâque. Donc, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Donc, le Christ est allé à cet endroit et Lazare était présent, cet homme qu'il avait ramené à la vie. Verset 2, là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Jésus-Christ avait ramené Lazare à la vie un peu de temps auparavant, non pas à la vie éternelle, mais à une vie physique. Et ça l'a attiré une attention extraordinaire sur son ministère. Voyez ce que dit le verset 9 maintenant. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Un événement remarquable qui avait attiré l'attention des gens autour. Alors, les gens voulaient voir non seulement le Christ, mais ils voulaient voir cet homme qui avait été ramené à la vie, Lazare. Mais tout ça a indisposé les chefs religieux de l'époque dans la communauté juive. Verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils étaient fâchés contre le Christ. Ils voulaient tuer cet homme que le Christ avait ramené à la vie. Verset 11, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux, des chefs religieux, à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors, beaucoup de gens quittaient ces chefs religieux pour aller vers le Christ. Ces chefs religieux étaient amers, fâchés. Verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, c'était les fêtes du printemps, la Pâque, les pains sans levain. Alors, beaucoup de gens se sont rendus là, donc, à ce moment-là. Verset 13, ils prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna ». Donc, voici le Christ, notre roi qui vient bientôt, qui était venu à ce moment-là dans la chair humaine pour mourir pour nos péchés. Beaucoup de gens commençaient à reconnaître ce que le Christ était et ce qu'il faisait. Et regardez ce qu'ils ont dit. Ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Nous trouvons ici une prophétie qui s'accomplissait sous leurs yeux. Cette prophétie était annoncée longtemps d'avance dans les textes. Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, avançant sur un anon en signe de son humilité. Il n'est pas venu sur un bel étalon ou sur un cheval flamboyant ou sur un cheval de guerre, non. Le Christ a monté sur un anon. Verset 15. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Alors, les gens étaient venus pour honorer le Christ. Verset 16, « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » À ce moment-là, c'est-à-dire pas sur le coup, mais après la résurrection du Christ, ses disciples se sont rappelés ce qui s'était passé et ce que ça voulait dire, la signification de la prophétie accomplie. Cet événement-là avait été prophétisé et il s'est réalisé. Allons à Apocalypse, chapitre 7. La Bible s'explique elle-même. Nous n'avons pas besoin de faire de spéculation. Apocalypse, chapitre 7, et le verset 9. Ici, c'est dans le contexte où il est question aussi des 144 000. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône. Ça parle d'un événement qui va prendre place dans le futur. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Devant le trône, vêtus de robes blanches, devant l'agneau, et des palmes dans leurs mains. Des branches de palmier. Ce seront des branches de palmier qu'ils auront dans les mains. On le voit dans Jean, et on le voit aussi dans le livre de Lévitique. Ces branches de palmier symbolisaient les réjouissances, la joie. Regardez le verset 10. « Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Il se réjouissait du salut de Dieu. Voilà ce qui va se passer. Le salut qui nous a été accordé, qui nous est offert maintenant. À cause du Christ, nous avons la promesse de vie. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ce salut nous est offert maintenant à cause du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous voyons ces événements et nous nous réjouissons. Mais parfois, nous ne prenons pas une perspective assez large. Dieu a planifié ces choses-là longtemps d'avance. Des événements que nous célébrons aujourd'hui et que nous célébrons en venant à cette fête des tabernacles cette année. Dans les Écritures, à différents endroits, dans le livre d'Apocalypse et dans 1 Pierre, il est mentionné que le Christ a été immolé avant la fondation du monde en tant qu'agneau de Dieu, comme sacrifice pour nos péchés. Alors, Dieu et son porte-parole ont planifié d'avance tout ça. Et ça a été planifié avant la fondation du monde, avant même la recréation de ce monde. Les deux grands personnages formant la base de la famille de Dieu, ont établi un plan et ils l'ont mis en action. Apocalypse, chapitre 13 et le verset 8. Voyons ici rapidement. Je prends simplement la partie du verset qui concerne ça. Il parle du livre de vie et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, c'est sur ça que je vais attirer votre attention, de l'agneau, et regardez bien, qui a été immolé dès la fondation du monde. Et lorsqu'on va voir dans 1 Pierre, c'est encore plus précis pour nous montrer que c'était avant la fondation du monde. 1 Pierre 1 et le verset 20, voyez ce qui est écrit. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il parle du Christ ici. Alors, les deux êtres divins qui ont vécu éternellement ont planifié cette chose-là. Et le Christ est devenu notre rédempteur, notre sauveur. Dieu a créé toute chose par le Christ. Et à un moment donné dans l'histoire, le Christ a recréé, refaçonné la surface de la terre en préparation d'y mettre l'homme et de créer l'être humain à son image. Et il a créé Adam. Ensuite, à partir d'une côte d'Adam, il a créé Ève. Et voyez-vous, il a il savait où cela allait mener, parce que le Christ allait venir dans la chair humaine. Le Christ est devenu engendré de Dieu au moment où il a été engendré dans la chair humaine. Il a commencé dans ce sens-là à être son fils à ce moment-là, il ne l'était pas avant, et le Père n'était pas le Père avant, c'était le gouverneur de l'univers avec son porte-parole. Le Christ a été engendré dans Marie par le Père. Alors, quand le Christ a procédé à la création des êtres humains, il savait que plus tard, il allait être 9 mois dans le ventre de Marie. Voyez Luc chapitre 1, où ces événements sont révélés. Et ça prouve l'œuvre du Christ et du Père. Luc, chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. C'est intéressant de la façon dont c'est présenté dans les Écritures. Plusieurs reconnaissent qu'il y a 2 généalogies concernant le Christ dans les Écritures. Une montre la lignée du Christ à partir de Marie, et l'autre montre la lignée du Christ à partir de Joseph, mais sur le plan légal. Donc, ces 2 généalogies sont exactes, mais une décrit davantage le cheminement du Christ, la lignée physique par Marie, alors que l'autre présente la lignée légale par Joseph, le père adoptif du Christ. Marie était de la lignée de David aussi. Alors, on voit dans Matthieu et dans Luc ces 2 lignées de généalogie. Dieu a préservé tout ça dans la Bible pour notre instruction. Depuis Adam et Ève. C'est une preuve physique que le Christ est né dans la chair. Mais il a été engendré de son Père, le gouverneur de l'univers. Ça nous aide à comprendre notre destinée, parce que c'est le même cheminement, pour ainsi dire. Auprès d'une vierge, verset 27, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Alors, je reviens à ça. C'est que Joseph, c'est la lignée légale. Joseph n'était pas son père biologique, mais il l'a adopté. Et nous savons, de par la parole de Dieu, qu'à cette époque-là, lorsqu'un enfant était adopté dans une famille, il devenait héritier dans cette famille. Il faisait partie de la famille. Dans le livre de Romains, on voit qu'il est écrit « Nous sommes adoptés ». Monsieur Armstrong a étudié profondément cette question. Et la bonne traduction de ce passage, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la raison de ça, c'est que lorsqu'un enfant est adopté, il devient légalement enfant de cette famille, comme s'il était un enfant naturel de la famille. Alors, le Christ, étant de la lignée de Joseph sur le plan légal, était en ligne pour hériter le trône de David. Et il était fils de Marie, de la lignée de David, donc, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Nous savons aujourd'hui que l'Église catholique et plusieurs autres religions ont élevé Marie au-delà de ce que Dieu voulait. Mais en même temps, ne réagissons pas non plus de manière négative au point de ne pas reconnaître les bénédictions extraordinaires que Dieu a répandues sur cette jeune femme qui est devenue la mère de Jésus-Christ. Elle était honorée par Dieu, elle a été bénie par lui parmi les femmes. Nous devons respecter ce que Dieu a fait en elle. Cette jeune femme avait un caractère spécial. C'était une personne spéciale, de sorte que Dieu l'a utilisée. Il a utilisé son sein pour porter le Christ, pour l'engendrer, pour l'amener à naître physiquement. Verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle a reçu des directives, même concernant son nom. En hébreu, le nom est Joshua, et ça veut dire « sauveur ». Donc, son nom voulait dire « sauveur ». Il sera grand et sera appelé « fils du Très-Haut ». Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. David n'était pas son père physique, mais en termes de trône, de lignée, ce trône était le trône de David. Nous allons le voir encore un petit peu plus loin. Nous allons voir cette perspective un peu plus loin encore, verset 33. « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Cette phrase ici, cette expression, on la retrouve dans le livre des Actes, lorsqu'il parle de l'Esprit qui est répandu sur ses serviteurs. Il n'y a pas plus de détails que ça ici, mais c'est direct et c'est clair. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle a porté en son sein le Fils du Dieu Très-Haut. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est quelque chose qui a été décidé avant que la création physique ne soit mise en œuvre. Ça a été planifié longtemps d'avance. Jésus-Christ, la parole de Dieu, a révélé lui-même plusieurs prophéties qui annonçaient sa venue en tant que notre Sauveur. Allons au livre des Actes, s'il vous plaît. ça nous fournit certains détails qui peuvent répondre à des questions. Certaines églises ont de la difficulté avec ça à cause des fausses doctrines qu'ils enseignent. Par exemple, l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception n'a rien à voir avec la naissance du Christ. Plusieurs catholiques ne comprennent pas leur doctrine même à ce sujet-là. Si vous faites quelques recherches là-dessus, ce qu'ils enseignent erronément, c'est que Marie est née de façon immaculée, si vous voulez. Ce concept est faux. C'est appuyé sur une erreur, ce n'est pas biblique. La Bible nous dit clairement que les fautes des pères ne sont pas la responsabilité des enfants et que les fautes des enfants ne sont pas sur les épaules des pères ou des parents. Le concept du péché originel, on ne le retrouve pas dans la Bible. Et il y a beaucoup de confusion autour de ça. Dans le livre des Actes, on trouve des indications par rapport à ça. Pierre a été inspiré par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Verset 29, acte 2. « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, voyez-vous, il était roi, mais il était aussi prophète. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. La Bible, pour bien comprendre ça, nous indique la lignée de Marie qui était de la lignée de David. Elle était la chair de David, pour ainsi dire. Jésus-Christ n'était pas de la chair de Joseph. Il a été engendré par son père au ciel. Mais sur le plan physique, il était de la lignée physique de Marie, donc de David. Verset 31. On peut voir ces prophéties-là dans le livre des psaumes. Peut-être avez-vous des références dans votre marge de Bible pour aller voir ces passages-là dans le livre des psaumes. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Dieu l'a ressuscité. Il a été 3 jours et 3 nuits dans la terre sans voir la corruption. Après cela, physiquement, son corps aurait suivi le processus normal de décomposition, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce que les Écritures nous montrent. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. On réalise, en lisant ce passage-là, que ceux qui ont entendu ce message de Pierre ont été vraiment touchés. Et les disciples du Christ, maintenant, avaient reçu la responsabilité d'annoncer le message du Christ et de faire connaître le Christ et son rôle. Alors, ils ont demandé une question à ce moment-là. Lorsque les gens ont entendu ce message et qu'ils ont vu leur responsabilité, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Ils acceptaient donc à ce moment-là leur responsabilité dans la mort du Christ, le Fils de Dieu qui avait été crucifié, qui avait été mis à mort. C'est une responsabilité personnellement que nous acceptons le jour de notre baptême. pas au milieu de millions d'autres personnes, mais personnellement, parce que Christ est mort pour chacun de nous, personnellement, pour nos fautes spécifiques, personnelles à chacun de nous. Nous comprenons ça et nous l'acceptons. Nous ne disons pas, je suis simplement une toute petite partie de l'ensemble de l'humanité qui a péché. Non, j'ai personnellement causé la mort du Christ. Pierre leur dit, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, Dieu a fait une promesse extraordinaire. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Cette promesse adressée à nous, c'est la promesse qui est adressée à l'ensemble de l'humanité aussi. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, Dieu l'a expliqué clairement. Dieu a inspiré sa parole d'une telle façon que ça nous donne la signification de notre existence et le but de la vie. Tout ce dont nous avons besoin, on le trouve dans ce livre, dans la Bible. Et c'était l'intention de Dieu en faisant en sorte que ce livre soit inspiré et qu'il parvienne jusqu'à nous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est dans la Bible. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Nous célébrons la fête des tabernacles. En comprenant que Dieu a un plan, les jours que nous célébrons maintenant, ce sont des jours de réjouissance. Mais c'est très important que nous les mettions en perspective de ce que Dieu est en train de faire. Ça nous aide à être encouragés et à comprendre davantage qu'une promesse nous a été faite. Ça nous fortifie. Ça augmente notre foi et il nous faut avoir foi en Dieu. Il nous faut absolument mettre notre vie entière entre ses mains. Parfois, nous passons des épreuves, des moments difficiles, nous vieillissons. Notre corps vieillit, bien sûr. Nous savons que nous vieillissons et que nous allons mourir, mais Dieu a un plan. Ce qui importe, ce n'est pas la vie présente. La vie présente sert au plan de Dieu pour nous amener au but ultime de devenir des êtres spirituels et d'avoir la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi qui vient bientôt. Alors, Dieu qui a créé toutes choses a planifié ces choses-là. Dieu veut que nous soyons certains de ses promesses. Il veut que nous sachions que ces choses-là vont toutes se réaliser. Sans son intervention, l'homme par lui-même va se détruire totalement. Et nous l'entrevoyons sur la planète actuellement. À cause de notre vie charnelle, notre nature humaine charnelle, à cause de nos convoitises, de notre égoïsme, Dieu permet que Satan nous influence. Dieu permet qu'il y ait du bien et du mal dans le monde. Parce que Dieu veut que, à mesure qu'il appelle des gens, que ces gens-là utilisent leur libre arbitre pour se tourner vers lui. Et nous devons choisir régulièrement. Nous avons plusieurs choix à faire dans chaque journée. Parfois, il nous arrive de tomber, mais il faut revenir tout de suite sur la voie de Dieu. Jour après jour après jour, il nous faut exercer le libre arbitre pour servir Dieu, pour que la loi de Dieu devienne nous, pour l'intégrer. Et ça nous transforme. Dieu nous a fait une promesse extraordinaire que ces choses-là vont se réaliser. Et que si Dieu n'intervient pas, toute chair sera détruite. Les êtres humains vont se détruire. Allez dans Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît, verset 21. Pourquoi est-ce que Dieu va intervenir très bientôt sur la face de la terre? C'est une autre promesse qu'il a faite. Et il va le faire pour des raisons bien précises. C'est pour empêcher l'humanité de se détruire. Vous pouvez étudier ces choses-là. Voyez l'histoire des êtres appelés qui ont été fidèles, les fidèles serviteurs de Dieu, les gens de foi. Vous voyez ça dans Hébreux, chapitre 11, par exemple. Donc, Matthieu 24, verset 21, parlant des temps de la fin, des derniers jours, le Christ a dit, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, pas seulement les élus de l'époque actuelle, mais à cause des élus de Dieu qui ont vécu au cours de l'histoire, ça fait partie de son plan. Dieu va intervenir. Et cette intervention, nous la célébrons aujourd'hui. Nous la célébrons dans les autres fêtes que nous célébrons au cours de l'année. Lorsque nous célébrons la fête des expiations, décrivant le temps où Satan sera éliminé, et ainsi de suite. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le Père et Jésus-Christ vont accomplir totalement leur plan et vont réaliser toutes les promesses. Dieu veut que nous les comprenions et que nous soyons encouragés par ce qui vient. J'aimerais aller plus loin un peu maintenant. Et je veux vous montrer l'attitude de Dieu en cela. Dieu veut que nous soyons certains des promesses qu'il nous a faites. Dieu veut sauver l'humanité d'une destruction totale. Il est notre sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Par lui, nous allons avoir le salut et l'humanité l'aura plus tard. C'est pour ça que nous célébrons la fête des tabernacles. Dans le plan de Dieu, toutes les fêtes de Dieu nous donnent des encouragements et augmentent notre foi. Ça nous aide à mettre notre confiance totalement en Dieu. Hébreux, chapitre 6, ça parle d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Verset 13. Ça montre quel est le cœur de Dieu, son attitude, son approche, son amour profond pour nous. Concernant le salut, justement. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Les êtres humains jurent et font des serments parce qu'ils se méfient les uns des autres. C'est ce qu'on voit dans le monde, c'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Aujourd'hui, par exemple, les êtres humains font ça. Ils ont de la méfiance et c'est pour ça qu'ils mettent tout par écrit dans des documents. Et bien sûr, il nous faut être très prudents pour bien lire ces contrats, ces documents écrits, ces engagements écrits, pour être certain qu'il n'y a pas de clause ou de façon de dire les choses qui pourrait faire dévier l'entente qui a été prise au point de départ. C'est pour ça qu'il y a des avocats aujourd'hui, pour s'assurer que les mots veulent bien dire ce qui était le thème de l'entente au point de départ. Ce n'est pas mauvais d'avoir des clauses dans un contrat ou dans un document, mais il faut bien les comprendre. En ce qui concerne Dieu, il est notre Créateur. Il n'avait pas besoin de faire ça, si vous voulez, mais il a juré par lui-même et il dit « Certainement, je te bénirai en parlant d'Abraham et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu veut que nous soyons certains de ses promesses, que nous soyons solides dans la foi, que nous remettions notre vie entière, toute notre vie entre ses mains en nous basant sur ses promesses infaillibles. Verset 18, « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Dieu veut que nous soyons fortifiés par cela. Il nous donne la fête des tabernacles, la Pâque, les pains sans levain, la Pentecôte, la fête des trompettes, les expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Il nous donne tous ces jours saints mis ensemble pour nous révéler son plan et nous encourager, augmenter notre foi. Que nous soyons un peuple de foi qui mettons notre entière confiance en Dieu. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. La preuve de ça, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui est monté au trône de Dieu. Et c'est par son sang que nous pouvons être pardonnés. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Non pas un ordre physique, mais un ordre spirituel. Le Christ est ce Melchisédek. Alors Dieu veut que nous soyons certains, que nous ayons l'assurance absolue de ses promesses. Voyons maintenant comment le sacrifice de Christ et tout ce qu'il a fait sont liés à toutes les promesses que Dieu nous a faites. Frères et sœurs, nous savons que par l'Esprit de Dieu, quelle que soit notre nationalité actuellement, nous pouvons devenir les enfants d'Israël, l'Israël spirituel. C'est pour ça que l'Église du Nouveau Testament est appelée l'Israël spirituel. Au début, Dieu avait travaillé avec Israël physique. Maintenant, il travaille avec une nation spirituelle formée de différentes nationalités. C'est son plan. Et Dieu nous appelle à sortir du monde et il nous donne l'occasion de devenir son peuple. C'est formidable. Ça nous montre beaucoup de choses, que Dieu a commencé par un peuple physique et qu'il continue maintenant par un peuple qui est encore physique, mais qui reçoit l'Esprit de Dieu. Il nous faut avoir la vision et l'approfondir au cours de ces fêtes que nous vivons. Allons dans Ésaïe, chapitre 49. Ça parle encore du plan de Dieu ici. Ésaïe 49. Où il est montré qu'Israël physique sera appelé au salut bientôt. Dieu va ramener de captivité nos nations israélites modernes. C'est pas drôle ce qui va se passer. Mais lorsque ça va se passer, j'espère que ça va nous aider à réaliser aussi que les promesses de Dieu sont réelles. Elles se réalisent. Il y a des choses difficiles qui s'en viennent. On ne veut pas voir personne souffrir, bien sûr. Mais parfois, la souffrance accomplit un but dans la vie. Quand on devient plus vieux, je vieillis et je souffre parfois. Mais je sais que dans tout cela, Dieu accomplit un plan. Il accomplit son but pour moi. Plus je vieillis, plus je vois que Dieu me polie, pour ainsi dire, ou me raffine. C'est un processus. Et parfois, ça fait mal. Mais en même temps, ça accomplit de grandes promesses. Ésaïe, chapitre 49 et le verset 13, ça parle d'un temps qui est devant nous lorsque Dieu va ramener de captivité les nations israélites. Et regardez ce qui va se faire. Ce sera un temps de réjouissance. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? quand elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Voilà la promesse de Dieu. Pourquoi? 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Thomas a douté de la résurrection du Christ. Qu'est-ce que le Christ a fait? Jésus a tendu ses mains, lui a montré la paume de ses mains, et il a dit à Thomas, « Mets tes doigts dans mes blessures et dans mes plaies. » Et nous savons qu'à ce moment-là, Thomas a été profondément touché au fond de son cœur. C'était une prophétie ici de ce qui allait arriver au Christ, comment il allait être mis à mort et que ses mains allaient être trouées de clous. La promesse leur avait été donnée. Dieu est fidèle et Dieu accomplit toutes les promesses qu'il fait. Tout ce par quoi le Christ a passé avait pour but d'accomplir son plan. Nous lisons dans Jérémie chapitre 32, Jérémie chapitre 32. On voit le cœur de Dieu à travers de tout ça. Il parle ici des nations physiques d'Israël que Dieu va ramener ensemble, verset 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu va ramener Israël de la captivité. Bien sûr, ça s'est appliqué lorsque les enfants d'Israël ont été amenés en Babylonie. Israël a été amené en captivité en Assyrie aussi. Mais Dieu a fait en sorte que ce soit écrit ici parce que ça s'applique au temps de la fin également. Ça s'applique à une période de temps qui est juste devant nous. Après qu'Israël sera allé en captivité, Dieu va les ramener. C'est à ce moment-là que le règne millénaire du Christ va commencer sur la planète. Verset 38, « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, voyez-vous, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Au cours du millénium, Dieu va bénir la terre. Il y aura une guérison totale à tout point de vue. Ce sera une restauration totale de toutes choses. Des petits-enfants vont grandir encore, mais vont vivre en paix, vont jouer dans les rues, vont se voir offrir le salut à mesure qu'ils vont grandir. Et plus tard, lors du jugement du grand trône blanc, Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu dans l'histoire. Ils se verront offrir aussi la possibilité d'avoir la vie éternelle. Nous ne serons pas des êtres physiques à ce moment-là. Si nous sommes fidèles jusqu'au retour de Christ, nous serons transformés. Et nous allons jouer un rôle dans ces bénédictions extraordinaires qui seront répandues sur la face de la terre. L'accomplissement des promesses de Dieu. Promesses de ces deux grands personnages qui ont existé de toute éternité, qui ont planifié la naissance du Christ. Dieu avait prévu ça, Dieu avait planifié ça depuis très longtemps. Et Dieu nous le révèle dans sa parole. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, verset 39, afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, voyez-vous, une alliance qui va durer toujours. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Vous avez une alliance avec Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et Dieu en décrit un aspect ici. Dieu, au moment de votre baptême, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, que vous avez accepté son sang pour payer l'amende de vos péchés, vous avez traité alliance avec lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des épreuves, des difficultés, mais c'est pour notre bien. C'est une promesse aussi, c'est un encouragement de le voir de cette façon-là, selon la Bible, selon Dieu. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dieu le fait dans notre vie. Nous allons voir des choses terribles qui viennent. Nous allons être émus et ça va créer de la crainte en nous. Mais en même temps, ça va nous faire admirer Dieu encore davantage et vouloir nous approcher totalement de lui, afin qu'il ne s'éloigne pas de moi. Verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Quelle déclaration puissante! Notre grand Créateur, Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, fait ça de tout son cœur et de toute son âme. Verset 42, « Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. » Voilà la perspective intéressante qu'il nous faut avoir. Nous avons une assurance. Nous allons voir le reste des prophéties s'accomplir concernant tous les pays israélites. C'est grandiose. Les difficultés qui viennent, les grands cataclysmes du temps de la fin, les grandes guerres et tout ça, que Dieu va permettre, ça ne vient pas par hasard. Ce n'est pas simplement le résultat des péchés des hommes, mais Dieu va se servir de ça pour punir les nations israélites. Nous le voyons, et il faut le savoir, comprenez bien. Mais tout en voyant ces choses, nous avons également une assurance. Nous avons l'assurance que tout ça va changer, qu'il y aura un monde meilleur après. Les difficultés vont grandement s'intensifier. Mais en même temps, nous avons l'assurance de ce qui vient ensuite. Voilà le sens de la fête que nous célébrons maintenant. Nous comprenons et nous allons pouvoir l'enseigner aux autres. Nous pouvons déjà répondre à ceux qui posent des questions actuellement, donner de l'espoir, et nous allons le faire dans le monde à venir. Cet espoir est réel. Les gens vont se tourner vers Dieu à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas maintenant. Les gens vont se tourner vers Dieu car ils n'auront plus d'autre espoir. Nous avons cet espoir-là à cause de ce qui nous a été enseigné par ses serviteurs, parce qu'il nous a appelés maintenant et qu'il nous montre ses promesses extraordinaires. Nous faisons partie de l'accomplissement de ses promesses. Jérémie chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 6. C'est la même situation. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Les gens vont devenir son peuple, comme nous sommes appelés à devenir son peuple maintenant et à être son peuple. Ça rejoint la déclaration que nous avons lue dans Hébreux. C'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Alors, quand nous allons voir ces choses arriver, voyons la perspective plus large de ce que Dieu est en train d'accomplir. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu travaille actuellement dans notre vie et Dieu nous donne un cœur pour le connaître. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. C'est ce que Dieu veut que nous fassions au cours de cette fête aussi. Il veut que nous comprenions son plan, que nous soyons inspirés par ses jours, pour qu'ils reviennent à moi de tout leur cœur, de tout notre être. Que nous soyons inspirés et encouragés. Cette vision que Dieu nous donne au cours de la fête nous aide beaucoup à poursuivre notre route. Lorsque vous tenez à cette perspective-là, ça devient partie intégrante de vous-même. Et ça nous aide à continuer à nous battre pour vaincre nos fautes. C'est vrai physiquement, mais c'est vrai spirituellement lorsqu'on voit la parole de Dieu. Dieu veut que nous retournions à lui. C'est un processus que nous traversons au cours de cette vie. C'est facile d'être distrait de notre course et d'être dérangé. Chaque année, nous revivons ces fêtes. C'est pour cette raison qu'on le fait. Dieu veut que nous approfondissions ces choses-là, que nous nous approchions de lui. C'est un modèle spirituel qui reste toujours vivant et efficace. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, Dieu va racheter ces gens. Et regardez bien ce qui est formidable, c'est que nous allons jouer un rôle là-dedans. Le livre d'Apocalypse en parle. Dieu va littéralement ressusciter ses serviteurs et nous allons régner avec lui. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Jean a vu ces choses-là d'avance en vision. Et je vis des trônes, Apocalypse 20, verset 4, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Qui vont s'asseoir sur ces trônes? Ceux que Dieu aura ressuscités lors du retour de Christ. Ceux qui feront partie de la première résurrection. Regardez la dernière partie du verset 4. Il revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6, maintenant, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Non, ils seront devenus éternels, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous allons à ce moment-là être rois et sacrificateurs de Dieu. On le voit dans Apocalypse 5 aussi. Apocalypse 5. Nous allons occuper deux postes en même temps. Aujourd'hui, l'administration étatique et l'administration religieuse est séparée. Mais dans le monde à venir, ce sera ensemble. Ce sera une même fonction. Le Christ est notre Sauveur. Nous l'adorons. Ces deux postes ne seront pas séparés. Nous serons des rois et des sacrificateurs. Fonctions administratives, civiles et fonctions religieuses. Dieu appelle maintenant des gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, comme on voit au verset 9. Dieu ne fait pas de différence entre les peuples. Il se prépare une équipe maintenant pour servir sous le Christ. Verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Dieu est en train de nous préparer, frères et sœurs. Tu as fait d'eux un royaume, des rois et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Voyons encore plus cette responsabilité future qui nous attend. Allons dans Ésaïe chapitre 58 et le verset 9. Ici, la Bible parle du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Lisez ces choses-là. Mettez-les en pratique. Nous jeûnons régulièrement et nous devons voir ce que ça veut dire et ce que ça implique. Nous pouvons jeûner pour différentes raisons, mais voici ici la raison majeure pour laquelle il nous faut jeûner pour nous approcher de Dieu et nous préparer aux fonctions qui s'en viennent. Regardez ce que Dieu nous dit si nous le faisons. Commençons au verset 9. « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Dieu va répondre. Si nous cherchons à nous approcher de Dieu et à vivre selon ses lois, Dieu va nous répondre. Dieu va prendre soin de nous. Verset 11. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Et regardez le verset 10, comment Dieu va utiliser notre lumière, la deuxième partie du verset 10, parce que Nous serons des êtres de lumière. À ce moment-là, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voilà comment Dieu va nous utiliser. Nous serons lumière pour les autres autour. En tant qu'être humain, ce n'est pas possible. Ça ne s'applique pas sur le plan physique directement comme tel. Nous brillerons dans ce sens-là, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. » Nous allons avoir de l'influence et les nôtres vont avoir des rôles particuliers à jouer. Ces événements-là viennent. Et voyez, on t'appellera, et il parle de nous si nous sommes fidèles, ici jusqu'à la fin, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu travaille dans notre vie et nous prépare à ça pour que nous participions à ce qu'il va faire. Il vient de parler que nous serons des réparateurs de brèches. Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Ces brèches sont les transgressions des enfants d'Israël qui les séparent de Dieu. Mais on parle de brèches également comme de celles qu'on peut voir sur un barrage, par exemple. Et on voit par ça que Dieu est très patient envers l'humanité et envers nous. Il y a transgression par-dessus transgression dans le monde. Et ça a été comme ça autour de l'histoire. Et maintenant, ça empire au temps de la fin. Les gens, non seulement ne veulent plus obéir à Dieu, non seulement le rejettent, mais ils le méprisent aussi. C'est ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Ésaïe 30 et le verset 1. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. » Voici ce que font nos nations israélites maintenant. « Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » C'est en augmentation très claire. Dans ce contexte, Dieu décrit que ses enfants se sont détournés de lui. Et vous lisez au verset 13 ensuite. Regardez comment Dieu s'exprime à ce sujet-là. « Ce crime sera pour vous. » Je vais commencer par le verset 12 pour bien situer. « C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, la Bible, puisque vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine. C'est comme une fissure dans un grand barrage. Il y a toute la pression d'eau à l'arrière. Vous savez, un barrage n'éclate pas tout d'un coup. Il commence à avoir de petites fissures, l'eau commence à s'introduire et à sortir de plus en plus. Jusqu'à un certain moment donné où la pression est tellement grande de tous les péchés accumulés que pouf! Le barrage entier s'effondre. Nous vivons dans une telle situation aujourd'hui, dans les nations israélites modernes, mais bien sûr dans l'ensemble du monde. Dieu va tenir ses enfants responsables de ce qu'il leur a donné dans ce livre, parce qu'il leur a confié sa parole. Ce livre, les Écritures, la parole de Dieu, a été répandue à travers le monde. Ça va se passer rapidement, comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie sur un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. En un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer. Puis, Dieu parle ensuite de sa miséricorde. C'est dans ce contexte que Dieu parle de ceux qui vont réparer ces brèches-là. Ésaïe, chapitre 30 et le verset 19. « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Même si vous devez passer à travers tout ce qui s'en vient, Il dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Il parle des Israélites qui survivront à la grande détresse qui vient. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Dieu va répandre son esprit sur ces gens-là à mesure qu'ils vont se repentir aussi. Il y a deux témoins qui vont agir puissamment au temps de la fin. Les gens vont les détester, ils vont vouloir les tuer, ils vont effectivement les tuer. Mais tous ceux qui essaieront de s'en prendre à eux vont mourir, c'est clair dans les Écritures, c'est une promesse également. Le plan de Dieu va s'accomplir exactement comme il est écrit dans sa parole. Dieu va envoyer des malheurs terribles sur l'humanité et sur la nation d'Israël. Tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Il parle après le retour de Christ maintenant. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Même dans l'Église de Dieu, nous avons de la difficulté à arriver à un équilibre, parfois, et à rester au centre de la voie de Dieu. Parfois, nous nous éloignons un peu. Il nous faut lutter pour rester au milieu de la voie étroite. Dieu nous aide par sa parole, par ses enseignants. Dans le monde à venir, ce sera la même chose. Nous allons guider les gens. Et si nous voyons quelqu'un qui va pour tomber dans le fossé, nous allons leur dire, voici comment fonctionner pour ne pas vous faire mal. Bien sûr, ils vont avoir le libre arbitre. Il faudra travailler avec eux pour qu'ils apprennent dans ce sens-là. Mais nous allons les guider selon Dieu. Nous serons les serviteurs qui allons faire ça. Nous serons les rois et les enseignants qui allons avoir cette occasion extraordinaire, cette bénédiction merveilleuse. Nous voyons comment Dieu travaille avec nous. Ce sera la même chose dans le monde à venir pour les autres qui seront appelés. Ésaïe chapitre 51 maintenant. Ésaïe chapitre 51 et le verset 4. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. C'est dit clairement ici, Dieu va intervenir, et son salut ira de l'avant. Jésus, sauveur de l'humanité, est venu dans la chair humaine pour donner sa vie en tant que notre Rédempteur. Et le temps vient où tous les humains se verront offrir la possibilité de se repentir et de voir leurs fautes effacées. Et regardez, 53 et le verset 11, ça parle du Christ ici. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Autrement dit, il profitera du travail qu'il a effectué. C'est plus clair dans certaines autres versions. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. On voit qu'il est question du Christ ici, notre Rédempteur. C'était planifié depuis très longtemps, depuis avant la création du monde, et ça a été accompli étape par étape, tel qu'annoncé. C'est tellement encourageant. C'est intéressant de le voir dans le contexte de la promesse que Dieu a faite qu'un fils nous serait donné. Ce fils-là, c'est bien sûr le Christ qui avait été annoncé à Marie. Ésaïe, chapitre 9. Le plan de salut a commencé par un enfant. Et nous le soulignons en célébrant cette fête. Verset 5. Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable. Les gens vont lui donner ses noms, vont l'appeler de ses noms qui lui reviennent. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et regardez son rôle prochain, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. quand le Christ est venu une première fois dans la chair, il est né en tant qu'être humain. Le Père l'a engendré par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Il est mort, il a été ressuscité, devenant ainsi le premier-né de la famille de Dieu. C'est très simple. Le plan de Dieu n'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile à comprendre. On le voit à travers l'exemple que le Christ nous a donné. Dans Hébreux 2, Paul dit, « Nous voyons Jésus-Christ. » Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant, à partir de ce moment-là, et à toujours. Incroyable! C'est le plan de Dieu. C'est son plan pour nous, vous en faites partie. Frères et sœurs, nous n'avons qu'à nous soumettre à Dieu. C'est notre destinée. Voilà pourquoi nous sommes nés. C'est l'intention de Dieu. Et Dieu nous montre par ses prophéties, par ses actions, par tout ce qu'il a accompli, qu'il est là et qu'il continue d'accomplir son plan. Regardez ce qui est écrit. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.